Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Née à Vienne en 1895, petite dernière des six enfants de Sigmund Freud, dont elle était peut-être bien la favorite, Anna Freud marcha sur les traces de son père en appliquant la psychanalyse à l'éducation des enfants. On sait que Freud lui avait, si l'on peut dire, mis le pied à l'étrier en la couchant sur son divan pendant 4 années, en contradiction d'ailleurs avec la recommandation faite à ses disciples de s'abstenir d'analyser les membres de leur famille. On sait aussi qu'elle fut, après la mort de son père, la gardienne de l'orthodoxie du temple freudien, au sein en particulier de la Société britannique de psychanalyse, où elle s'affronta en homérique controverse à Mélanie Klein. On sait également qu'elle était probablement homosexuelle et qu'elle mourut à Londres en 1982. Mais en 2003, pour découvrir un peu mieux qui était Anna Freud, pour comprendre ce que furent ses travaux en matière de pédagogie psychanalytique, sa pratique psychanalytique et ce que fut son existence de fille de son père et de femme, Christine Goémé proposait aux auditeurs de France Culture de plonger dans le roman complexe de la vie d'Anna Freud. Pour comprendre aussi peut-être pourquoi Lacan disait d'elle qu'elle était le fil à plomb de la psychanalyse, une vie, une œuvre, Anna Freud, une émission diffusée la première fois le 7 septembre 2003 sur France Culture.
Le 20 octobre 1895, Freud écrit à Fliess « Du hast doch nichts dagegen, wenn ich meinen nächsten Sohn Wilhelm heiße. Wenn ein Mädchen wird, ist Anna für sie vorgemerkt. Si tu n'as rien contre, j'appellerai mon prochain fils Wilhelm. Si il est une fille, elle se prénommera Anna. »
Une vie, une œuvre, Anna Freud. Une émission de Christine Goémé réalisée par Malika Mesgash. Quand naît le sixième et dernier enfant de Freud, il y a déjà quelques femmes prénommées Anna autour de lui. Il y a sa sœur, Anna, qui épousera le frère de sa femme et deviendra dans un lien conjugal en miroir inversé, Anna Bernays. 1895, c'est aussi la publication du livre de Freud et Breuer, Études sur l'hystérie, où l'on y commente le très célèbre cas de l'hystérique Anna O. 1895, c'est l'année du rêve le plus connu et commenté de Freud dans l'interprétation des rêves, le rêve mythique des origines de la psychanalyse, intitulé « L'injection faite à Irma ». Or, dans ce rêve, Irma est la figure condensée de deux analysantes de Freud, Emma Eckstein et Anna Lichtheim, fille du maître d'école de Freud et l'une de ses patientes préférées. Ainsi naquit Anna Freud cette année-là, en pleine montée à Vienne de l'antisémitisme, dans l'effervescence de la pensée de son père, entre des inventions foudroyantes, quelques livres fondateurs et la correspondance qu'il entretenait avec Wilhelm Fliess, qui est en quelque sorte son auto-analyse. Freud décidera de rester chaste après la naissance d'Anna pour ne plus avoir d'enfant. Mayette Viltard.
Il est remarquable que l'année de naissance d'Anna soit un moment tout à fait particulier dans l'histoire de la psychanalyse, puisque c'est l'année où Freud dira « Le secret des rêves m'a été révélé ». Il se trouve qu'elle a été conçue à l'époque où Wilhelm Fliess et Freud non seulement entretenaient cette correspondance extrêmement serrée et complètement prise dans l'invention de la psychanalyse, mais Freud avait en analyse Emma Eckstein, qui souffrait d'astasie à Basy, et Freud lui-même souffrait de troubles cardiaques. Et il avait convenu avec Fliess de se faire opérer du nez, puisque la théorie de Fliess était que des interventions nasales pouvaient guérir des troubles à distance si c'était des troubles névrotiques. Et donc Anna a été conçue exactement au moment où Fliess, venant à Vienne, opère le même jour Emma et Freud. Le même jour est prise cette photo célèbre de Freud et Fliess. Et ceci donne lieu, on le sait, à cet épisode étonnant où Fliess, ayant oublié une compresse dans le nez d'Emma, Emma manque mourir. Et ceci n'entame en rien la confiance que Freud a dans son ami.
Wilhelm Fliess était médecin. Il travaillait sur la bisexualité et pensait que le nez était lié directement aux organes génitaux. Il croyait en effet que la cloison nasale reproduisait les organes sexuels et que soigner le nez soignait les névroses d'origine sexuelle et en particulier l'hystérie. Freud le rencontre chez Breuer en 1887. Les deux hommes, qui menaient chacun une recherche sur la sexualité, entretinrent une amitié passionnelle. Freud fit avec Fliess ce qu'il appellera son auto-analyse. Leur correspondance, d'une crudité extrême, dont une partie n'est toujours pas traduite en France, nous donne une image de Freud extrêmement différente et étrangère au Freud viennois un peu austère qu'on imagine habituellement. À tel point que les lettres de Fliess furent brûlées par Freud à la fin de sa vie et que celles de Freud à Fliess furent sauvées in extremis. Dans ses lettres, Freud, par exemple, y explique que ses saignements de nez par son homosexualité et les interprète comme des règles. Fliess pensait également pouvoir prévoir le sexe des enfants. C'est ainsi que Fliess lui-même pensait attendre avec sa femme une fille, naquit Robert en 1895, qui deviendra psychanalyste. Il avait prédit un garçon à Freud, naquit Anna, la même année que Robert. Freud rompit avec Fliess en 1902. Voici par exemple, dans les fragments caviardés de cette correspondance, une lettre de Freud à Fliess, datée du 6 décembre 1896. Anna a donc, à cette époque, un an.
Papa au comble de l'ivresse sexuelle. L'une de mes patientes, dans l'histoire de laquelle son père hautement pervers joue un rôle majeur, a un frère plus jeune, considéré comme un vulgaire vaurien. Un jour, celui-ci se présente chez moi, les yeux en larmes, déclarant qu'il n'est pas un vaurien, mais un malade, avec des impulsions anormales et une inhibition de la volonté. Par ailleurs, il se plaint, mais tout à fait à part, de maux de tête, certainement d'origine nasale. Je le renvoie à sa sœur et à son beau-frère qu'il va donc voir. Le soir, voilà que la sœur m'appelle à cause d'un état paroxystique. J'apprends le jour suivant qu'après le départ de son frère, elle a été prise de maux de tête effroyables qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Fondement. Le frère avait raconté que son activité sexuelle consistait, quand il avait 12 ans, à baiser, lécher, les pieds de ses sœurs lorsqu'elles se déshabillaient. Là-dessus, lui était venu, dans l'inconscient, le souvenir d'une scène où elle voit papa, au comble de l'ivresse sexuelle, lécher les pieds d'une nourrice. Par là, elle avait deviné que la prédilection amoureuse du fils était issue du père, que donc celui-ci avait été le séducteur de celui-là. Maintenant, elle pouvait s'identifier avec lui et lui emprunter son mal de tête. Le frère est toute perversité, souffrant en revanche d'impulsions de contrainte. S'il pouvait être pervers, il serait en bonne santé comme le père.
D'emblée, Anna aura une place particulière pour Freud, une enfant rebelle, son diable noir. Donc Anna est née effectivement en même temps que la psychanalyse, et de fait, sa contribution à la théorie analytique est entièrement liée à la relation étroite qu'elle a pu avoir avec son père. On sait qu'à partir de 1918, elle a entamé une analyse avec son père, chose qui à l'époque n'était pas si étonnante. Abraham, Melanie Klein, Jung ont analysé leurs enfants.
Leurs enfants, leurs maîtresses, leurs amis, tout le monde s'analysait entre soi.
Oui, ça se passait dans un milieu où il y avait une assez grande proximité.
C'était un tout petit milieu d'ailleurs.
Mais donc, l'intérêt, c'est de considérer que Anna est peut-être le cas princeps de Freud à propos de la psychanalyse, à propos de la formation des analystes. Et Freud avait publié les fameuses 5 psychanalyses, mais concernant Anna, les publications sont relativement masquées.
À quoi est-ce que vous pensez, Mayette Wiltard, par exemple ?
Alors, dès 1919, Freud publie « Un enfant est battu », qui est une mise en jeu publique de ce que lui apprend sa fille sur le divan. On a l'habitude de parler de ce texte en tenant compte des fameux 3 temps de constitution du fantasme « Un enfant est battu », sans tenir compte de la formule globale du fantasme « Un enfant est battu sur son tutu tout nu ». Ce tutu tout nu n'est pas pris en compte dans la suite du texte. Or, c'est précisément une indication sur la façon dont Freud va négliger, si l'on peut dire, on le dit après coup, étant donné la suite des textes, un certain versant de l'érotisme anal, cette fessée sur le derrière, la fessée déculottée. Dans ce texte, Freud établit une équivalence entre le fait que l'enfant qui a une excitation liée au fantasme d'une relation avec son père, relation sexuelle, va refouler cette excitation et va lui substituer un coup, une frappe, un schlag. Et ce coup devient équivalent, comme retour du refoulé, au refoulement du fantasme édipien de coucher avec son père pour la fille. Dès 1920, Freud reçoit celle qu'on appelle la jeune homosexuelle, pendant le temps où il a Anna en analyse. Freud, pendant toutes ces années 1918, 1919, 1920, est effectivement aux prises avec la question de l'homosexualité féminine. Et alors qu'il a publié « Un enfant est battu », texte très connu, Anna, elle, va publier un texte Fantasme de fustigation et rêve diurne, en 1922, mais elle va faire mieux. Ce texte, elle va le prononcer devant la Société psychanalytique de Vienne pour obtenir son admission dans la société. Ce texte n'a été traduit en français qu'en 1994. Et encore dans un recueil, Féminité Mascarade, qui prend un titre à John Rivière, et le texte d'Anna, traduit donc pour la première fois en français, est noyé, si l'on peut dire, au milieu d'autres textes d'Hélène Deutsch, de John Rivière.
Il n'est même pas signalé en couverture. Hein.
Il n'est pas signalé en couverture. Dans une première biographie d'Anna Freud, écrite par Uwe Peters, du temps d'ailleurs de la vie d'Anna Freud, Uwe Peters, embarrassé devant ce texte, écrit « Il est peu vraisemblable qu'Anna Freud ait dépeint sa propre vie avec aussi peu de réserve ou qu'elle en ait été assez inconsciente pour en donner au lecteur une interprétation aussi intime. » Mais il ajoute « Toutefois, on ne sait pas très bien d'où venait cette jeune fille de 15 ans. Certainement pas de la clientèle paternelle. Elle ne peut pas venir non plus du cabinet d'Anna Freud elle-même, puisque Anna Freud n'avait pas commencé encore à recevoir de patients. »
Donc le texte sur la fustigation, c'est Anna qui se raconte.
Alors maintenant, évidemment...
On est à peu près sûr de ça maintenant.
On en est tout à fait certain et ça a eu un certain nombre de conséquences. Il est très frappant de voir que le texte officiel sur l'homosexualité féminine concerne cette jeune homosexuelle Sidonie et contient une thèse que Sidonie va réfuter toute sa vie, mais que les interrogations de Freud sur l'homosexualité féminine portent précisément sur ce qu'il écrit et ce qu'il ne va cesser d'écrire sur la sexualité féminine en liaison avec ce que Anna produit aussi bien sur le divan que dans des textes qui justement ne sont pas connus et ont été maintenus, on pourrait dire, sous le boisseau. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte dans Fustigation, Fantasme de fustigation et Rêve diurne? Dans ce texte, Anna parle en tant qu'analyste d'une jeune fille qui est elle-même. Et cette jeune fille souffre de fantasmes de fustigation qu'elle accompagne de rêveries diurnes. Et elle raconte que quand elle était très jeune, cette jeune fille, autour de l'âge de 6 ans, avait une activité érotique masturbatoire accompagnée d'un fantasme à propos de son père. Puis qu'à partir de 8-10 ans, étant donné qu'il y avait, dit-elle, une satisfaction sexuelle qui était inconciliable avec les exigences du moi, elle va développer tous les fantasmes de fustigation en faisant intervenir des organisations et des institutions, des écoles, des établissements éducatifs où les éducateurs, les maîtres frappent les enfants. Et puis ensuite, elle modifie et elle remplace ces scènes de coups qui inévitablement se terminent par la masturbation par ce qu'elle appelle des belles histoires, des histoires à l'eau de rose, où tout se passe bien, mais parfois les scènes de coups réapparaissent et à nouveau masturbation.
C'est extraordinaire quand on sait que Anna deviendra effectivement une institutrice qui va fonder des institutions pour enfants.
Absolument.
On voit déjà là tout un programme qui se révèle en cru de l'histoire de la psychanalyse.
À 14-15 ans, elle va remplacer les belles histoires par des histoires de chevalerie entre un burgrave et un jeune garçon. Le jeune garçon est torturé, il demande pitié, le burgrave va manifester sa brutalité, sa sévérité, et en général, elle obtient de justesse une réconciliation. Mais, ajoute-t-elle, dans les mauvais moments, les coups réapparaissent et il y a satisfaction sexuelle.
Mon cœur est un papa. You know, la propriétaire.
Donc, Anna Freud présentera le 31 mai 1922, devant la Société psychanalytique de Vienne, son travail « Fantasme de fustigation et rêve diurne » traitant de son propre cas. On peut le lire en français dans un ensemble de textes intitulé « Féminité mascarade » paru aux éditions du Seuil. Dans ce recueil, le titre français du texte d'Anna Freud est « Fantasme d'être battu et rêverie ». Marie-Christine Hamon, qui l'a publié, explique dans une note « Nous avons écrit « être battu » au masculin. la forme allemande ne permettant pas de trancher sur le genre. Marie-Madeleine Lesana.
Pour présenter ce cas, elle éclaire l'article de Freud qui a été publié en 1919, donc 3 ans avant, On bat un enfant, qui est l'article Princeps sur la question du fantasme. Et donc, c'est très intéressant donc de voir que Freud a déjà présenté le cas de cette jeune fille à l'intérieur de cet article, et la jeune fille, c'est elle. Voilà qu'elle représente le cas de cette jeune fille, elle, entre guillemets, parce qu'on ne sait plus, c'est disons la jeune fille, qui vient, elle le présente pour illustrer la façon dont Freud l'a déjà présenté. Et alors, donc moi je me suis arrêtée sur une phrase où elle cite Freud, mais en y mettant de son cru. Alors je vous donne cette phrase qui inaugure cet article. À un moment précis de son travail, l'auteur c'est Freud, elle dit l'auteur, rapporte qu'il connaît des cas de femmes chez qui, au-dessus du fantasme masochiste d'être battue, s'est développée une construction artistique faite de rêveries très importante pour la vie de l'intéressé et à laquelle a été échue la fonction de rendre possible la satisfaction de l'excitation même en cas de renoncement à la masturbation. Ça, c'est Anna. Alors, elle prétend citer Freud et je vous dis qu'est-ce que Freud a écrit. Alors c'est Freud, dans son texte « Un enfant est battu » ou « On bat un enfant », dans 2 de mes 4 cas féminins, s'était développé par-dessus le fantasme masochiste de fustigation une savante superstructure de rêves éveillés, très importante pour la vie des personnes en question et à laquelle était dévolue la fonction de rendre possible le sentiment de l'excitation satisfaite même après le renoncement à l'acte onaniste. Alors je vous dis les 2 points qui sont où on peut dire Anna apporte son grain de sel dans la façon qu'elle a de citer Freud, elle met son plus à elle, c'est elle dit s'est développée une construction artistique, là où Freud met une savante superstructure, hein, une construction artistique, et plus loin, puisque la grande question de la sublimation chez Freud, c'est l'inhibition, la pulsion est inhibée quant au but, le but étant la satisfaction, c'est-à-dire que la question de la sublimation, c'est le détournement de la satisfaction dans des transformations qui sont œuvres, qui font œuvre ou qui font activité artistique. Bon, c'est toute une question qui est un débat qui, à mon avis, court toujours et posé comme ça est toujours un peu coincé et mal posé, à mon avis, où est passée la satisfaction, est-ce que c'est la même qu'une satisfaction masturbatoire ou pas. Et là, Anna annonce la couleur, donc ces superstructures, ces rêveries très importantes pour la vie de l'intéressé, à laquelle a été échue la fonction de rendre possible la satisfaction de l'excitation, même en cas de renoncement à la masturbation, alors que chez Freud, c'est rendre possible le sentiment de l'excitation satisfaite, même après le renoncement à l'acte onaniste. Bon, c'est une différence qui est quand même notable entre le sentiment et la satisfaction, on pourrait dire, effective. Donc, chez Anna, la construction artistique apporte, enfin, d'emblée, elle dit ça dans sa conférence, apporte la satisfaction, qui n'est pas la même, qui n'est pas une masturbation, mais apporte la satisfaction. Et rendre possible la satisfaction. D'accord ? Anna, d'emblée, ouvre la question de l'activité artistique dans cette conférence déclarative et illustrant son cas à travers la façon dont Freud a illustré. Et après, elle se débat difficilement à l'intérieur de son exposé avec cette question de la sublimation. Elle est là avec... à la fois, elle a annoncé que ça apportait là une satisfaction qui est la même que la satisfaction masturbatoire. Et puis à la sortie, elle essaye de déplier quel genre de satisfaction a celui, l'écrivain, et entre autres la jeune fille, donc qui s'est mis non seulement à penser les belles histoires, à les imaginer, mais en a écrit une qu'elle a sous les yeux lorsqu'elle se présente à la Société de Vienne. Et alors elle envisage donc une série, quelles sont les satisfactions? Alors ça peut être pour la fille se débarrasser du fantasme qui est parasitant. Donc, dans la transcription, dans l'écriture, est-ce que on finit par juguler le caractère obsédant, parasitant, pousse pousse au jouir, on pourrait dire, de la présence de la rêverie diurne. Alors ça, c'est une hypothèse. Le plaisir indirect de l'ambition, le plaisir de la figurabilité, le plaisir de donner du plaisir au lecteur. Peut-être le plaisir, alors ça c'est pas dit très clairement, mais en quelque sorte d'abandonner la question de la différence des sexes au profit d'être invariablement représenté par un garçon. Là on en est à l'amorce, on a ce texte qui est un texte magnifique où il y a un certain nombre d'éléments qui après en quelque sorte vont rester en jachère, oubliés. Hein, ce texte ne sera pas repris, sauf qu'on sait que l'année qui a suivi, d'abord qu'elle a été admise, que son admission a emporté une admission en dérogation de Lou Andrea Salomé, qui avait été extrêmement présente auprès d'elle à la demande de son père pour en quelque sorte l'encadrer, la soutenir, la superviser, l'accompagner, faire la grande sœur, faire la maman intellectuelle auprès d'Anna, à côté de son analyse avec son père, et aussi dans ce projet de rédiger cette conférence qui quand même était quand même un moment tout à fait décisif, déclaratif, donc angoissant aussi pour Anna. Et elle écrit à Lou que si elle est admise, au moins la moitié reviendra à Lou Andrea Salomé. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc Anna est admise malgré le fait que dans la salle il y a quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est, qui fait remarquer que cette fille est un très mauvais augure pour cette fille qui est sûrement très anormale et qui ne doit pas bien se débrouiller, qui ne se débrouillera pas bien dans la vie. Un seul parmi eux, je cite, c'est une lettre d'Anna à Lou, un seul parmi eux, donc dans l'auditoire, voulut voir une personne complètement anormale dans sa jeune fille, dans la pauvre fille de mon récit, dont l'inutilité et l'infériorité se manifesteraient nécessairement aussi dans la vie réelle. Et puis là-dessus, j'étais déjà découragée, mais heureusement papa lui a répondu et a défendu ma petite fille. Je pense que papa était également content et satisfait de mon début.
Anne-Marie Vanhoef, j'aimerais bien qu'on déplie un peu ensemble les relations d'Anna Freud avec les autres femmes.
Oui. Effectivement, je pense que c'est le point central dans la vie d'Anna Freud. Ça a commencé par sa nourrice catholique Joséphine Schillars quand elle était toute petite, qui l'a aimée et qui s'est beaucoup occupée d'elle. Et ensuite, son amie d'enfance dès l'école primaire, Trude Baderley, qui se souvient encore d'Anna Freud 50 ans plus tard et qui se souvient surtout de l'histoire qu'elle se racontait. C'était l'histoire des deux grenadiers. Et donc, vous voyez que les belles histoires, elles vont démarrer très, très tôt dans la vie d'Anna Freud.
Alors, c'est quoi cette belle histoire des deux grenadiers?
Cette histoire des deux grenadiers, c'est en fait un poème de Heine, avec une mélodie de Robert Schumann. Il s'agit des deux grenadiers de Napoléon qui est revenu de Russie et qui apprennent que l'empereur a été fait prisonnier. Et donc, l'un des grenadiers veut rentrer chez lui le plus vite possible et l'autre, évidemment, attend l'appel de mon empereur. Et pour aller le venger, bien évidemment, on se doute qu'Anna Freud va s'identifier au grenadier qui veut aller sauver l'empereur. Et surtout, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle va se répéter à son ami inlassablement dans la cour de récréation, c'est « Que m'importe femme et enfant, je porte en moi un désir plus noble ». Il me semble que ça, Anna Freud va l'accomplir tout au long de sa vie, et particulièrement après les années 1922.
Alors, avant tout de même, donc cette jeune fille grandit, son père est entouré de femmes intelligentes. Oui. Il y a la tante d'Anna, la sœur de sa mère, qui est vraiment l'alter ego, la personne avec qui Freud cause le plus souvent et le plus volontiers, qui vit à la maison. Et puis il y aura Lou, Andrea Salomé, qui est cette femme brillante.
Oui, si vous voulez bien, avant de parler de Lou, il me semble qu'il faut parler de Lo, Loïc Kahn, qui était en analyse en 1912 chez Freud, et qui était l'ami de Jones. Et Anna Freud, en tant qu'adolescente, va la fréquenter chez son père, va la côtoyer et va être très fascinée et admirative de cette femme. Et en 1914, à la fin de sa scolarité, donc au début de la guerre, Freud va envoyer Anna en Angleterre en lui disant « Attention à Jones, s'il te fait des avances, je t'interdis de répondre à ses avances. » Freud lui interdit dans une lettre, hein, il faut quand même le savoir. Mais c'est pas tellement Jones qui intéresse Anna Freud, c'est Loïc Kahn. Et elle va avoir une grande admiration, une grande affection pour cette femme. Et elle va désespérer de la revoir, elle va l'attendre, elle va en rêver après. Et c'est une amitié qui ne durera pas, qui n'aboutira pas. Et Anna Freud en sera très déçue. Et je fais l'hypothèse que Anna Freud n'a pas rencontré Lou Andrea Salomé à cette période-là parce qu'elle avait déjà Loïc Kahn et que ça lui suffisait qu'elle y pensait, qu'il y avait cette femme dans sa tête et dans son cœur et que ça lui suffisait. Et que bien que Freud insista lourdement de 1912 à 1921 pour que sa fille Anna rencontre Lou Andrea Salomé, Anna résiste de mille et une façons à cette rencontre. Et ça me paraît tout à fait intéressant parce que je crois que dans sa vie, Anna Freud a beaucoup fonctionné sur le mode de l'attente et de la tension, et de l'exacerbation de la tension, et qu'elle mettra 10 ans avant de se laisser aller au charme de la rencontre et au coup de foudre, entre guillemets, de sa rencontre avec Lou Andrea Salomé.
Alors, Lou, c'est évidemment Laura. Elle a connu évidemment qui on sait, les poètes, tous les amants qu'elle a eus. Elle en a eu tous plus prestigieux les uns que les autres. On ne retient que Rilke et Nietzsche naturellement, mais Lou est une femme qui a vécu des histoires d'amour d'une intensité qui a provoqué des histoires d'amour absolument foudroyantes. Et Freud va adorer Lou, qui est une femme si belle et si intelligente.
Oui, une femme si belle et si intelligente, mais surtout une compreneuse par excellence. C'est comme ça que Freud lui écrit. C'est ce qu'il dit exactement. Vous êtes une compreneuse par excellence. Effectivement, Freud est très très attaché à Lou Andrea Salomé. Et bien plus que sa fille, dans un premier temps. Et moi, je fais l'hypothèse, c'est un peu ça ma thèse, c'est que c'est Freud qui a souhaité que Anna rencontre Lou Andrea Salomé. Et bien entendu, je pense qu'Anna se laissera faire parce qu'il y a Rilke. Enfin, je dis parce qu'il y a, c'est ma lecture, hein, c'est une lecture. Parce qu'il y a Rilke, il faut savoir que Anna, quand elle était adolescente, quand elle était enfant, lisait les poètes. Elle avait le tricot Rilke dans la poche, le tricot et son père et ses amis dont j'ai commencé à évoquer. Et donc, bien entendu, Rilke, quand elle était adolescente, elle aimait particulièrement un poème qui s'appelait « Le poète » de Rilke, « Dichter », je crois en allemand. Et elle reprendra, au début de son analyse, elle se mettra à écrire des poèmes pendant son analyse avec Freud, qui commence en 1918, et elle écrira des poèmes à ce moment-là. Et donc, Lou Andrea Salomé s'est fait une idée, a donné forme à ses propres rêveries à elle d'écrivain, de femme de lettres, et elle écrit à Freud, elle lui dit « Oui, votre fille Anna a traduit, a fait une traduction, c'est une poétesse certainement, vous vous rendez compte, quelle réussite de psychanalyse paternelle en psychanalyse féminine si elle devenait écrivain, quelque chose de cet ordre. » Donc, c'est le désir de Lou, est déjà là, comme ça, de faire de cette fille du père, puisque pour Lou, c'est la fille du père. Elle ne la connaît pas encore, c'est la fille du père. C'est par Freud que ça passe.
Et au fond, Freud aura envie de quoi? Il aura envie que Lou soit l'institutrice, en quelque sorte, d'Anna Freud. L'éducatrice
oui,
d'Anna.
Oui, je vous vois venir. Disons qu'il a envie que Lou conduise Anna tranquillement sur les voies de la féminité. Qu'elle lâche qu'elle lâche sa masculinité, cette masculinité clitoridienne, sa masturbation, et qu'elle aille doucement, qu'elle aille sur les voies de l'hétérosexualité et de la féminité. Ce que Anna n'a pas du tout jusqu'à maintenant réussi à faire, et que son père très ambivalent l'a peut-être aussi empêché de faire. Donc il y a ce moment 1921 qui est un moment tout à fait important où donc Lou Andrea Salomé va arriver à Vienne, invitée, elle va y rester plus d'un mois, et là les deux femmes vont se rencontrer. C'est vraiment une rencontre, un effet de révélation pour ces deux femmes, je crois. De quoi parle-t-elle? Lou est enveloppée dans une couverture qui a été tissée par Anna. Anna est accroupie, vous les imaginez toutes les deux, accroupie au pied du poêle, et elle parle, et elle parle, et elle parle. Et de temps en temps, le père Freud rentre et leur demande comment ça va. Et il est très content de savoir ces deux femmes en train de parler, passionnément. Et de quoi elle parle? Je crois que Anna lui confie ses rêveries dures. Lui confie tout ça et lui dit que elle doit faire une présentation à la Société de Vienne l'année suivante pour pouvoir être admise à la Société de Vienne. Elle doit faire une présentation, une conférence d'admission, et c'est clair que Lou va la soutenir et va l'aider dans cette entreprise. Elles vont avoir beaucoup d'échanges, mais avec une grande émotion, puisque dès qu'elle part, Lou rêve d'Anna, lui écrit et lui dit j'ai rêvé de toi, et c'est vrai ce que tu me disais à propos de la séparation. Dans le fond, quand on est séparé de quelqu'un que l'on aime, c'est pas une perte, c'est une possession. Donc vous voyez quand même que c'est très fort.
Ah, donc Lou elle-même a été très influencée par Anna. Enfin, visiblement.
Il y a eu une réciprocité, je pense, dans leur échange. Et en tout cas, à ce moment-là de son trajet, Anna est encore dans « Papa, Lou, faites de moi, je suis d'accord pour que vous fassiez de moi ce que vous voulez, à savoir, elle fait des efforts, elle veut se débarrasser de ses difficultés, de ses rêveries, de ce qu'elle appelle ses idioties. » Et il va y avoir une correspondance très intensive, et en fait on a trouvé des passages censurés de certaines lettres de la correspondance Lou Andrea Salomé Freud et Lou Andrea Salomé Anna, et donc on se rend compte que là la correspondance elles ont eu des échanges très intensifs, et entre décembre et mai, qui est la date de sa conférence à propos du fantasme de fustigation et des rêveries diurnes, elles ont beaucoup d'échanges, et là c'est assez stupéfiant. Lou lui dit je vais t'aider, tu vas devenir écrivain, en fait pour pouvoir réussir ta sublimation, eh bien il faut écrire. Écris tes rêveries, je vais t'aider, et tu vas écrire, et tu vas devenir écrivain. Et donc ça, c'est véritablement le désir de Lou Andrea Salomé. Et donc Anna est de bonne volonté, elle a encore besoin de Lou, et elle dit d'accord, elle essaye, et elle va commencer à écrire un roman qui va s'appeler Henri Musame, qu'elle va intituler Henri Musame, c'est-à-dire Henri le fatigant, Henri le laborieux. Et elle a beaucoup de mal, parce que d'une certaine façon, au fur et à mesure qu'elle écrit l'histoire de son personnage, elle s'identifie au personnage masculin, et le cadre éclate à nouveau, c'est-à-dire qu'elle est à nouveau prise par sa rêverie. Et donc Lou lui dit c'est très bien d'écrire, continue, l'encourage, mais il dit écoute, il est un peu fatigant celui-là, tu peux pas le...
Il est un peu laborieux ton Henri.
Il est un peu laborieux ton Henri, tu peux pas le laisser un peu. Et en fait là ça commence à se gâter un peu, parce qu'en fait Anna ne se sent pas comprise par Lou à ce moment-là. Elles ne se sont pas tout à fait entendues. Elle lui dit mais non, je n'y arrive pas, je ne peux pas le lâcher. Et après plusieurs échanges, dont une tentative d'écrire ensemble à deux une correspondance, une rêverie diurne d'un garçon et d'une fille, Lou étant la fille et Anna le garçon, pour que Anna puisse écrire pour l'aider et puis pour qu'elle puisse avancer dans leur rêverie. Et je crois parce que pendant tout un temps, elles ont un plaisir commun, quelque chose de l'ordre du plaisir, où Anna a enfin trouvé quelqu'un avec qui partager son plaisir. Je crois que c'est vraiment de cet ordre-là dans un premier temps. Et puis Lou se rend compte qu'en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que le fait d'écrire pour Anna ne change rien à ses rêveries, qu'elle continue à rêver. Et du reste, en 1924, Anna lui dit, il faut dire que en 1924, Freud a déclaré son cancer. Enfin, son cancer s'est déclaré en 1923. Et là, effectivement,
il le rend public. En 24 ans.
Il le rend pas public en 24, je crois. Oui, enfin, ça va se savoir, je pense. Enfin, il va avoir une opération. Ça. Mais disons que il y a cet événement, je pense, qui est quand même tout à fait important, puisque Anna ne pourra pas partir à Berlin comme elle l'avait pensé à un moment donné, aller à l'Institut de Berlin avec Ettingen pour travailler là-bas. Donc, elle renonce à partir et donc à laisser son père. Et ça, Lou la pousse. Elle lui dit bien entendu, maintenant, tu ne peux plus partir. Elle lui dit très clairement, tu te dois à ton père, tu dois rester près de ton père. Et on voit cette Lou Andrea Salomé, qui est tellement dans l'ouverture qu'on décrit comme une femme extrêmement libre, etc. Là, en l'occurrence, avec Anna, elle la pousse à rester près de son père et à rentrer dans la voie de, on pourrait dire entre guillemets, du sacrifice, point d'interrogation, ou en tout cas d'une certaine normalité. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que justement, je pense qu'Anna va résister et va refuser ça. C'est un petit peu la lecture que je fais et la thèse que je défends, c'est que Anna va résister et en 24, son père lui impose de reprendre une deuxième tranche. Elle avait fait une première tranche de 1918 à 1922, Freud disant que c'était une analyse réussie. Et en 1924, Anna Freud étant très, très soucieuse et très mal de savoir son père malade comme ça, pas bien, et puis se posant des questions sur son avenir.
Et puis ne pouvant pas partir.
Ne pouvant pas partir, n'est pas bien. Et elle écrit à Lou en lui disant Je suis indolente, je n'arrive pas.
Bref, elle est déprimée, comme on dirait aujourd'hui.
Oui. Elle est déprimée. Et donc là, Lou Andrea Salomé lui dit oulala, indolente, je sais ce que ça veut dire. Et là, Lou va faire quelque chose qui est qu'elle va écrire en cachette d'Anna à Freud, et elle va dire à Freud « Oh non, non, mais ça ne va pas, hein. Anna, ça ne va pas, ça va pas du tout, elle est toujours avec ses mêmes idées, ses mêmes rêveries, ses mêmes fantasmes, et ça ne va pas du tout. » Et là, en 1924, le père lui dit « Dis donc, ma petite fille, reprends ton analyse. » Il lui impose de reprendre une tranche, comme on dit aujourd'hui. Et il lui dit, ça ne te fera pas de mal pour ton travail d'analyste. Parce que c'est en 23, Anna Freud a commencé à recevoir des patients. Et voilà donc Anna qui reprend une deuxième tranche. Et au moment où elle reprend cette deuxième tranche, fin 1924, elle va rencontrer une nouvelle femme qui est Eva Rosenfeld. Elle va prendre la fille d'Eva Rosenfeld en analyse et elle va devenir très amie avec cette femme, Eva Rosenfeld. Et elle lui dit par exemple « Je suis toi, tu es moi ». Voilà le type de lien qu'elle met en place avec elle. Des liens très très forts. Et puis, en 1925, va arriver l'américaine Dorothy Burlingame, qui vient avec ses quatre enfants des États-Unis pour faire soigner son fils Bob, qui a des gros problèmes. Et elle veut ce qu'il y a de mieux pour son fils. Et ce qu'il y a de mieux en 1925, au niveau de la psychanalyse d'enfants, c'est Anna Freud. Et donc, elle va rencontrer Anna Freud, et je dirais d'une façon un petit peu poétique, là, Anna a trouvé sa maison. C'est sur un mode un peu poétique que je dis ça, dans le sens que ça y est, elle est à la maison, elle a trouvé un lieu. Du reste, Eva Rosenfeld dira à propos de Dorothy et d'Anna, c'est Dorothy qui compte pour Anna, et le cœur et l'esprit d'Anna sont devenus la maison de Dorothy. Donc vous voyez, c'est une affaire qui se scelle à ce moment-là, en 1925. Et à partir de là, Anna Freud qui a dit à Lou Andrea Salomé, Henri Musame, jamais je ne l'abandonnerai. Jamais je ne le laisserai, il sera toujours en moi. Si je l'abandonne, et de toute façon, quand il sort de moi, il est maltraité, donc on retrouve toujours cette question des... Il est maltraité, je le garderai toujours à l'intérieur de moi. Et à partir de là, Anna Freud renverse la relation à Lou et à Freud. C'est-à-dire qu'avant, Freud lui imposait ses amitiés féminines, enfin lui choisissait, disons, lui choisissait ses amitiés féminines. À partir de là, c'est Anna Freud qui choisira ses amitiés féminines. Elle constituera, je dirais, sa bande, son cercle, le cercle de Vienne, sa bande d'amis. Sa bande d'amis, sa bande de psychanalystes, et elle arrêtera de devenir un accessoire. Alors l'accessoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le fantasme de fustigation, les accessoires c'est très important, mais il y a les personnages principaux et les personnages secondaires. Là, elle arrête de dire à Lou et Freud, oui, je ne suis qu'un accessoire pour vous. Si j'étais née 40 ans plus tôt, je ne serais pas un accessoire. Et là, elle arrête de devenir un accessoire. Accessoire qui, dans son fantasme également, il faut se souvenir que c'était les institutions, les écoles, etc. Et là, elle va carrément les mettre en place. C'est-à-dire qu'elle va construire, elle va créer, elle va inventer ses propres points théoriques. Elle devient psychanalyste d'enfants. Pas écrivain, pas poétesse, psychanalyste d'enfants.
Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen, besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen.
Mayette Wilder.
Dorothy Burlingham va venir habiter à la Bergasse. Elle va être entièrement mêlée à la vie des Freud. Et Anna et elle vont commencer à créer des institutions pour enfants. Dorothy Burlingham accompagnera Anna à Londres en 1938. Elle partira en 1940 aux USA, pensant être amoureuse d'un homme. Et puis, elle reste 7 mois, je crois, aux USA. Elle se rend compte que c'est Anna qui est la personne déterminante pour elle. Elle revient à Londres, à Mansfield Gardens. Elle habite aux deux parce que Mina occupe une chambre au 20 Mansfield Gardens. Et ce n'est qu'à partir de 1941, à la mort de Mina, que Dorothy vient vivre avec Anna.
Ouvertement.
Ouvertement, et en même temps d'une façon dont il est peu témoigné. Puisque ça surprend encore quand on dit que Anna et Dorothy ont vécu ensemble 50 ans. Les enfants, les 4 enfants de Dorothy, étaient tous suivis en psychanalyse par Anna. Dorothy était en analyse avec Freud. Dorothy participait aux discussions théoriques. Et en 1933, Dorothy fait une communication pour elle-même obtenir son admission dans la société psychanalytique. Ceci dit, Anna a eu une activité politique dans la psychanalyse extrêmement importante. Et il faut dire que progressivement, elle s'est énormément rapprochée des États-Unis. Elle est devenue très amie avec Ralph Grinson. Et il faut dire que, aussi bien par l'intermédiaire de Ralph Grinson que par l'intermédiaire de Marianne Chris à New York, Grinson, lui, était à Los Angeles. Les établissements d'enfants d'Anna Freud ont connu l'assurance d'un financement inépuisable, puisque 25% des droits de Marilyn Monroe vont au centre Anna Freud aujourd'hui, d'une part.
25% des droits de Marilyn Monroe, j'ai bien entendu.
Oui, oui. Oui, ce qui fait, il y a un article assez récent, Freudians prefer blondes.
Ah, c'est très joli.
Mais également, il y a eu des dons importants de Jackie Kennedy. Et de près ou de loin, tous les travaux sur la psychanalyse d'enfants et le développement des enfants ont eu affaire à Anna Freud.
Tout ce qu'on lit, quoi, au fond.
En ami ou en ennemi. Aussi bien Montessori, Spitz, Mélanie Klein dans la lutte. Et aujourd'hui, le centre Anna Freud est un lieu très important sur ce qu'Anna a appelé l'éducation psychanalytique des enfants.
My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.
José Attal, donc, Anna Freud a passé sa vie à s'occuper d'enfants dans un certain nombre d'institutions. Est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est sa carrière?
Alors il y a deux choses dans sa carrière. Il y a d'abord cette carrière d'institutrice à laquelle elle se destinait, essentiellement parce que, c'est curieux, Freud n'avait pas trop d'ambition pour ses filles. C'était peut-être une affaire de culture, mais en tout cas il la voyait suffisamment bien comme institutrice. Ce qu'elle a été assez jeune, mais elle a pas pratiqué très longtemps à ma connaissance. Elle a vite été embarquée par la psychanalyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que même sa pratique de psychanalyse, son démarrage dans la psychanalyse, ça a toujours été une affaire d'éducation. C'est-à-dire que même Freud l'appelait pédagogue psychanalyste. Il disait « ma fille fait de la pédagogie psychanalytique ». Donc c'est d'une certaine façon, en tant qu'institutrice, qu'elle s'est mise à pratiquer la psychanalyse. Vraiment, on peut le dire comme ça sans beaucoup d'exagération. Et toute sa doctrine psychanalytique concernant les enfants, c'était une affaire d'éducation. C'est-à-dire que c'était aussi pour éduquer psychanalytiquement les enfants. Donc d'un bout à l'autre, d'une certaine façon, elle est restée institutrice. C'est ça qui est quand même assez notable.
Alors elle a fondé un certain nombre d'instituts, d'institutions,
oui.
Au fond de maisons pour enfants.
Elle n'a eu de cesse réellement de s'occuper d'enfants, mais au sens concret du terme. C'est-à-dire qu'elle-même, elle l'a dit à un moment, c'est une répression contre laquelle elle ne pouvait pas trop lutter. C'était irrépressible. Dès que des enfants passaient à sa portée, en quelque sorte, elle s'en occupait. Elle s'est occupée des enfants de son amie Dorothy Burlingame, avec qui elle a vécu 50 ans. Elle s'est occupée des enfants de tous ses amis. Elle a ouvert des crèches. Elle est, il faut le savoir, quand même la créatrice de ce qu'on a appelé avec Dolto la maison verte, hein, c'est-à-dire des maisons qui reçoivent mères et enfants. C'est elle qui a théorisé ça. Sa carrière en Angleterre plus tard, après la guerre, ça a continué. Elle s'est occupée des orphelins, de toutes sortes d'enfants. Vraiment, ça a été une espèce de... Le mot passion, et je ne sais pas s'il convient tout à fait.
Vocation.
Vocation, mais un peu plus, parce qu'elle disait dans une lettre à son ami Ettingon, par exemple, elle disait, c'est un peu plus que professionnel. Elle disait, j'ai besoin d'avoir un morceau d'eux. Des enfants. Donc c'était un peu plus qu'une simple vocation. Quoi.
On reviendra un peu sur ce côté ogresse. Hein, qui,
oui.
Si vous me permettez.
Oui.
J'aimerais bien savoir. Alors, ensuite, il y a donc, après-guerre, il y a les orphelins. Après, il y a l'aventure américaine.
Oui, l'aventure américaine qui est plutôt sous forme de conférences. Hein. Elle est régulièrement invitée. Elle faisait des conférences devant... un public de psychiatres surtout et de psychanalystes là-bas. Des conférences un peu, je sais pas si vous voulez qu'on en dise un mot, parce qu'elles sont assez étonnantes comment pourrait-on dire, de clarté et de clarté ennuyeuse en même temps. C'est-à-dire que ce qui est sidérant, quand on relit un petit peu tout ça, c'est à quel point elle est légère avec les concepts mêmes de son père. C'est-à-dire qu'on peut penser, elle qui est désignée comme la gardienne de l'orthodoxie du temple freudien, dans certaines conférences, elle mélange un peu les concepts de façon étonnante. Donc parfois, ses interlocuteurs lui font remarquer, mais ça ne le démonte absolument pas. Donc c'est une espèce de... Vraiment, ça fait penser un petit peu à la philosophie des libertins, quoi. Je veux dire, c'est pas la question de la vérité qui compte, c'est le fait même de dire. C'est vraiment assez étonnant, quoi.
Alors, il y a quand même deux points intéressants à noter dans l'histoire de la psychanalyse pour enfants, dont elle est partie prenante. Oui. C'est le crépage de Chignon, disons le terme, avec Melanie Klein, qui a été d'une violence terrible des deux côtés. Anna Freud détestait Melanie Klein, Melanie Klein détestait Anna Freud. Et puis, il y a la postérité, dont il faudrait peut-être dire juste deux mots, puisque de grands psychanalystes pour enfants, comme Spitz par exemple, viennent de l'école d'Anna Freud. Hein.
Oui, il y a beaucoup de... Alors sur ce que vous appelez crépage de Chignon, c'était un petit peu plus soft quand même, parce que c'était très anglais. Il y avait Jones qui veillait au grain.
Elles se haïssaient, les deux femmes.
Oui, elles se haïssaient assez cordialement. C'est sûr, enfin, il faudrait un peu de temps pour déplier ça. C'est sûr que on pourrait soutenir que Melanie Klein était sûrement, si j'ose dire, je baisse la voix, plus freudienne qu'Anna.
Sans doute.
Voilà. Mais Anna, bon, c'était la fille de Sigmund, hein, donc elle avait déjà cette espèce de position à défendre. Et puis, c'est vrai que son action était moins violente pour les gens, moins violente. C'est-à-dire parler de pédagogie psychanalytique, ça accrochait un petit peu plus que Melanie Klein, qui était un petit peu plus rentre-dedans, quoi. Donc voilà, il y a eu tout un tas d'éléments.
Alors, on peut peut-être aussi dire au passage que Melanie Klein va psychanalyser ses enfants. Anna Freud n'aura pas d'enfants. Elle s'occupera, comme vous avez dit, des enfants de ses amis.
Oui, absolument.
Qui deviendront en quelque sorte ses propres enfants.
Absolument.
Et donc ces deux femmes ont finalement inventé la psychanalyse pour enfants en analysant les enfants qu'elles avaient sous la main, qui étaient les enfants les plus proches d'elles.
Oui, mais c'est pas la même démarche.
Alors, racontez.
C'est pas la même démarche. Des gens comme Melanie Klein, par exemple, étaient vraiment inspirés par une recherche psychanalytique pure. Il y avait très peu de travaux sur les enfants. Donc, la question de, par exemple, de l'Œdipe chez l'enfant, Melanie Klein a beaucoup poussé les choses. Chez Anna Freud, quand on relit vraiment de façon attentive les textes, c'était pas exactement ça. C'était une espèce, je le disais tout à l'heure, de tentation comme ça, de s'occuper de tous les enfants qui passaient à sa portée, dans un but quand même éducatif. C'est la grosse différence. La pédagogie psychanalytique, c'était vraiment le mot.
Alors c'est quoi la pédagogie psychanalytique ?
Voilà, c'est là qu'il y a deux options. Vraiment, soit on considère que la pédagogie psychanalytique, c'est pas vraiment de la psychanalyse et on laisse un petit peu tomber. C'est vrai que ça a été la tentation de beaucoup de psychanalystes, dont moi-même. J'ai lu Anna Freud il y a longtemps, ça m'avait pas franchement emballé. Curieusement, vous voyez le détour que je vais faire, curieusement, c'est les travaux des lesbiennes actuellement qui sont revenus sur Anna Freud, en montrant à quel point elle avait été un petit peu malmenée notamment par son père, qui m'a fait relire un petit peu tout ça, et qui m'a fait découvrir que sa façon de s'occuper des enfants, c'était une façon qu'aujourd'hui je qualifie mettons des guillemets, pratique libertine.
Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Voilà, comment ça d'un peu débarque là-dedans, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a, chez Anna Freud, on va dire, trois grands moments. Le premier grand moment, vraiment, de sa carrière de psychanalyste, c'est le moment où elle est admise à la Société psychanalytique de Vienne.
1922.
Elle présente un texte. Brièvement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des fantasmes de fustication, qui se masturbe, qui a un grand plaisir. Et donc elle écrit ce texte pour montrer qu'un traitement psychanalytique amène cette jeune fille à une sorte de sublimation qui serait l'écriture. Enfin, passons sur les détails. Et donc, voilà, la guérison se fait sous cette forme-là. Ceci s'est avéré faux parce que, plus tard, elle reviendra dessus en disant que ça n'a jamais marché. Notamment quand le cancer de son père démarre, les fantasmes en reviennent et la masturbation aussi. Et dans son troisième livre, le plus important, Le moi et les mécanismes de défense, elle reviendra sur son cas en disant qu'en vérité, ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé tout ça. Avec ça, quand on lit un petit peu la façon dont elle parle de son cas, c'est la mise en marge de l'imagination menant au plaisir. Or, on ne peut qu'être saisi par la grande similitude, et le mot est faible, avec, par exemple, chez Sade, la méthode de Juliette. Vous savez, les deux sœurs, Justine et Juliette, la méthode de Juliette, qui est exactement du même ordre, c'est-à-dire que laisser courir les choses, laisser courir l'imagination pour atteindre le plaisir. Le mot fantasme a été un peu barré parce que Freud a écrit en écho à ce texte de sa fille. Il a écrit lui-même un texte très important sur le fantasme où il soutient, alors il y a plusieurs temps, mais que notamment un des temps qui est un fantasme incestueux, disons, entre le père et la fille, Freud soutient que ce point-là est toujours, toujours, toujours refoulé au point même qu'il le dit en tant que déduction. C'est-à-dire qu'il semble dire qu'il n'en a pas de preuve, mais que ça se déduit logiquement. Or, quand on lit attentivement le texte d'Anna Freud, de son admission à la Société psychanalytique de Vienne, c'est ça qui est fantastique, elle fait sauter en éclats tout ça, mine de rien, mine de rien. Et elle tiendra ça tout le temps. Je vous disais que la méthode d'Anna Freud et celle de Juliette dans ça étaient les mêmes. L'imagination mène au plaisir. C'est une question de plaisir, c'est pas une question de désir. À partir de ce point un petit peu commun, comme ça, évidemment, ça suffit pas pour dire Anna Freud est une libertine. Alors, comme d'autres, je me suis plongé dans la lecture de Sade, la lecture ancienne pour moi, donc j'y suis un petit peu revenu.
Dans la lecture de la Juliette de Sade.
Notamment de la Juliette, mais pas seulement. Et en parallèle, la lecture des textes d'Anna Freud, qui vraiment, à une époque, me tombait des mains, mais que j'ai pu lire d'une autre façon. Et alors là, de façon vraiment sidérante, les points de rencontre, vraiment, entre la question du libertinage et la pratique d'Anna Freud avec les enfants sont extrêmement nombreux.
Alors, on vous écoute concrètement.
Voilà. Chez Sade, on va faire deux colonnes en quelque sorte. Chez Sade, ce sont les institutrices qui s'occupent de la formation des libertins. Chez Anna, c'est une institutrice aussi. Je vais vite. Deuxième point, chez Sade, il s'agit de dresser les libertins. C'est une affaire de dressage, le mot est dedans. Je m'attendais pas du tout, pourtant je l'avais lu, à trouver le mot dressage chez Anna Freud. Eh bien, figurez-vous que dans son livre, le deuxième de ses livres, Traitement psychanalytique des enfants, elle s'explique sur la façon de procéder pour prendre un enfant en analyse. Alors elle dit qu'un enfant, c'est pas du tout comme un adulte, donc il y a des problèmes au regard du transfert, etc., etc., et que donc il y faut deux temps. Le premier temps de séduction, arriver à se rendre indispensable, dit-elle, pour l'enfant, elle appelle ça un temps de dressage. Je vous assure que c'est assez sidérant. Je l'avais lu et refoulé.
C'est le mot allemand.
C'est le mot allemand, mais qui traduit en français dit dressage, absolument dressage. Il n'y a pas de, d'équivoque à cet endroit-là. Ça fait deux points. Le troisième point, dans Sade, c'est par exemple le fait qu'on puisse enlever les victimes. On peut les enlever. Et à ma grande surprise, en lisant toujours Anna Freud, dans une de ses conférences, toujours à cette époque-là, que dit-elle? Elle dit, le psychanalyste doit se substituer aux éducateurs parents. Parce qu'au fond, quand un enfant a un problème, c'est que ses parents sont défaillants, entre guillemets. Et donc, il ne faut pas hésiter à se substituer à eux et à enlever l'enfant durant tout le temps que pourrait durer l'analyse. Donc voilà l'enlèvement qui arrive. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Et je pourrais déplier chaque point, vous imaginez bien que c'est bon. Autre point. Chez Sade, les libertins se constituent généralement en société secrète. Hein. Il y a la société des amis du crime. Et à ma grande surprise, là aussi, en lisant Anna Freud, que dit-elle ? Au fond, la psychanalyse est réservée à une élite. Ça peut pas être pour tout le monde. Et l'idéal serait que la psychanalyse pour enfants soit réservée aux enfants des psychanalystes, ou au moins à ceux qui sont psychanalysés. Donc voilà, à l'horizon de ce qu'elle dit, comme ça, il y aurait comme la constitution d'un ordre aussi, hein, une espèce de la société des amis de la psychanalyse, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a dans ce qui règle le libertinage, hein, qui est une affaire très sérieuse, hein, le libertinage vraiment très sérieux, c'est une affaire de raison, c'est une affaire de posture de la raison, hein, c'est pas une affaire de jambes en l'air. Il y a la question de la voix, c'est-à-dire la question de tout dire. Il faut se régler sur ce que dit la voix, le tout dire. Or, Anna Freud, toujours dans ses conférences, dit ce que je veux obtenir, c'est le tout dire de la part de l'enfant. Donc, et tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça suffit pas. Ça suffit pas pour affirmer qu'Anna Freud est libertine. Il faut au moins quelque chose de plus. Il faut au moins quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, c'est ce qui règle le libertinage, qui est la question de l'apathie stoïcienne. Ce qu'il s'agit d'apprendre chez les libertins, c'est apprendre à se déprendre soi-même. D'où, je pourrais vous donner plusieurs citations dans Sade, hein, le mot y est, d'où la pratique de l'apathie stoïcienne, c'est-à-dire se mettre à distance de toute émotion, de tout sentiment.
De tout pathos.
Voilà. Or, c'est exactement ça aussi qui règle la position d'Anna Freud. Et ça, ça démarre vraiment. C'est pour ça que je vous disais, c'était une jeune fille pimpante. Et à partir du moment où elle est devenue psychanalyste, elle est devenue grise. Figurez-vous que c'est sur injonction de son père qu'elle s'est mise à pratiquer l'apathie stoïcienne. Pourquoi ? Le seul moment où Anna Freud, qui était consumée par son père, je dis consumée parce qu'il dit lui-même, j'ai besoin de ma fille Anna comme de mes cigares. C'est-à-dire que les cigares, ça se consume. Il a besoin de sa fille, comme ça il consumait sa fille. Le seul moment où Anna essaye de prendre du champ, c'est-à-dire elle essaye de quitter Vienne pour s'installer à Berlin, donc un peu s'éloigner de son père, c'est exactement le moment où Freud démarre son cancer. C'est-à-dire qu'au moment où Anna dit « je quitte la maison », Freud déclenche son cancer. Et elle est obligée de rester et de s'occuper de lui. À une condition, c'est référé dans toutes les biographies, la condition est celle-ci posée par Freud. Tu t'occuperas de moi, d'une partie de moi, hein, ma bouche, hein, à condition de ne rien manifester dorénavant d'une quelconque émotion. C'est-à-dire qu'il lui demande de se conformer à ce qui a été une règle aussi pour lui, Freud, exactement l'apathie stoïcienne. Et toute la pratique de la psychanalyse d'Anna Freud va être sur ce mode-là. Sa compagne, Dorothy Burlingame, qui a été pendant 50 ans, lui écrit des lettres quand elles sont séparées pendant 6 mois, en disant « J'essaye de m'appliquer à votre règle de l'indifférence dans la vie. » Donc la pratique de l'apathie stoïcienne. Ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, tout ce qu'on a dit avec Sade, tout ce qu'on a dit avec Anna, en plus, la question de l'apathie qui est vraiment fondamentale. Et je rajouterai juste une chose. C'est que cette pratique de l'apathie stoïcienne chez Anna, elle a théorisé, comment dire, à propos de son cas aussi. Elle a repris son cas beaucoup plus tard, hein, dans son livre « Le Moi ». Et elle avance un concept qu'elle appelle cession altruiste. Qu'est-ce que c'est que la cession altruiste ? C'est se mettre dans son corps, si on peut dire, entièrement au service de l'autre, pour le bien de l'autre, entièrement. Or, comment ça se passe entre le libertin et sa victime ? Mais c'est pareil, parce que celui qui la victime et celui qui victimise, chez Sade, c'est le même. Hein, ça marche dans les deux sens. par exemple l'institutrice qui forme une élève chez Sade, l'élève appliquera à l'institutrice ce qu'elle a enseigné. C'est-à-dire que les choses se renversent. C'est dit, sans trop multiplier les citations, c'est dit dans Sade de la façon suivante. Donnez-moi, prêtez-moi de mémoire, je croyais avoir la citation sous les yeux, je ne l'ai pas. Prêtez-moi un morceau de votre corps, dit Juliette, pour mon plaisir, et en retour, profitez d'un morceau de mon corps à moi. Substance, c'est à peu près ça. C'est une espèce d'ascèse. Le point de formulation de cette ascèse est dit vraiment par Juliette. C'est, là, je cite, la citation est importante. Au bout de tout ça, elle dit, et son corps, morceau par morceau, disparaîtra sous tes yeux. Mais on voit bien que dans la citation « son corps », ça peut être aussi bien « mon corps ». C'est-à-dire cette affaire de morceau par morceau, c'est le point d'ascèse même qui est dit là, de la relation à l'autre. Anna Freud, après s'être occupée d'enfants, tout le temps, tous les jours, de façon, vous disiez comme une ogresse, quoi, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle en consomme. Elle a cette phrase. On est pillé morceau par morceau pendant la journée. Personne n'accorde un grand intérêt à ce qui reste le soir venu et qui est inutilisable. Bien que, étrangement, cette partie inutilisable soit le moi véritable. C'est-à-dire que vous voyez, c'est sidérant, c'est le même point d'ascèse que Juliette.
José Attal, évidemment, votre démonstration semble tout à fait passionnante, intéressante et laisse perplexe qui vous écoute, tant les choses sont en adéquation. Comment expliquez-vous qu'une femme effectivement se comporte d'une certaine manière comme une héroïne d'un roman libertin,
oui,
puisse à côté ou en même temps théoriser des points d'analyse de façon aussi aussi conventionnelle, comment cette femme, Anna Freud, qui en effet a une espèce de vision comme ça presque évidemment sadienne, 18e-iste en cas de ce type de rapport à l'enfance, comment expliquez-vous qu'elle devienne au fond le héros AULT, hein, le porte-parole du moi, de tout ce, oui, qui va finalement terminer dans amener la psychanalyse dans l'impasse la plus ennuyeuse, ah, oui, la plus conformiste, oui. Oui, la plus conventionnelle, la, oui, plus normative, enfin la plus, voilà.
Oui. Figurez-vous que Anna Freud est une invisible Anna Freud. Il y a à peu près 2 ans, hein, quand à l'école lacanienne notamment, on a commencé ses travaux un petit peu là-dessus, quelques-uns, j'étais absolument loin de penser, mais vraiment loin de penser, hein, que je mettrais le doigt sur ces questions-là. Et donc j'ai commencé à lire ce que les lesbiennes en disaient, parce qu'elles ont étudié les questions sérieusement, et j'ai lu attentivement quelqu'un qui s'appelle Marie-Jo Bonnet, qui a fait quelques livres et qui a mené des travaux extrêmement importants sur les relations amoureuses entre les femmes. Alors, les psychanalystes connaissent bien cette photo. Il y a une photo. Vous voyez le détour que je suis obligé de prendre, parce que c'est une affaire d'invisibilité. Évidemment, ça ne se déclare pas comme ça. Il y a une photo célèbre. C'est une photo où on voit face à face, autour d'une table, Anna Freud d'un côté, Dorothy Burlingham de l'autre, qui se regardent au-dessus du portrait de Freud. C'est une photo qui circule comme ça. Photo que tout le monde connaît, voilà. Seulement, quand on lit par exemple Marie-Jo Bonnet, on s'aperçoit que c'est absolument codé, ce type de photo, comme ce type de tableau. Ça s'appelle les deux amis. Et donc, c'est le signe invisible, hein, ça, c'est le signe invisible, disons, d'un lesbianisme. Passez-moi l'expression, parce que je ne suis pas sûr que les relations entre Dorothy et Anna étaient...
Oui, j'ai pensé à ça en venant sur le chemin que j'ai fait pour faire cet entretien, et je me suis dit qu'une femme comme Anna Freud, qui parlait si librement devant la société viennoise de son cas, tout le monde savait que c'était d'elle qu'elle parlait, et qui racontait ses fantasmes de masturbation, était sûrement quand même passée à l'acte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison, en tout cas. Il n'y avait pas de censure, a priori, de ce point de vue-là.
Oui, mais si vous faites... parce qu'elle a eu toute une série d'amis, hein. Il n'y a pas eu que Dorothy Brunner.
Ah non, mais elle aimait les femmes.
Hein. Une série que des femmes, absolument. Ouais. Freud le dit dans une lettre, il dit « ma fille...
» Aime les femmes.
Aime les femmes, voilà, il le dit à peu près comme ça. De là à dire que ça a été au sens d'une sexualité un peu active, franchement, je n'ai pas d'éléments pour dire oui.
Oui, personne n'en a, mais enfin, on peut supposer qu'a priori, il n'y avait pas de censure.
Oui, mais je crois que c'est plus autour de cette espèce de pratique libertine, c'est-à-dire de rapport comme ça
aux enfants.
Aux enfants, hein, et que Dorothy Burlingham... C'est un peu difficile de l'affirmer comme ça. Hein.
Enfin, ça, on ne sait pas.
Elle l'a intéressée plus par ses enfants que par elle-même.
Ah oui. Donc, les femmes n'étaient, à votre avis, que des moyens d'accès à l'enfant.
Il y a eu deux types de femmes. Il y a eu un certain type de femmes, Loekan, tout ça, qu'elle a envoyé sur le divan de son père, gratuitement. C'est-à-dire qu'elle disait à son père, tu la prends en analyse, gratuitement. Et il y a eu Dorothy Burlingham qui est venue avec ses enfants dont elle s'est occupée, mais plus qu'occupée, quotidiennement, en analyse. Enfin, ça s'est d'ailleurs un peu mal fini pour au moins l'un d'entre eux, hein, qui s'est suicidé. Enfin bref, mais c'est plutôt, je crois, la consommation, entre guillemets, d'enfants qui était présente là, que l'accès à un corps érotique.
Donc, il y a deux Anna Freud.
Oui, bien sûr, il y a deux Anna Freud. C'est deux. C'est idiot de dire deux, c'est la même. Mais alors il y a celle dont le public psychanalytique et les héritiers de Freud se sont emparés, ont installé comme une espèce d'icône.
Ce qu'elle était aussi.
Ce qu'elle était aussi, mais je veux dire, rien à se reprocher. Vous voyez l'altruisme de Freud, elle a passé sa vie à se consacrer aux autres, aux enfants, enfin, toute sa vie, réellement toute sa vie. Et puis il y a ce que dit Anna elle-même. Elle-même, hein. C'est-à-dire que jusqu'au bout, elle n'a pas lâché sa position. Le fantasme incestueux avec papa existe bien, contrairement à ce que dit papa. Hein. Contrairement à ce que dit papa, elle le dit encore dans son dernier texte, qui a été censuré d'ailleurs chez les Anglais qui ont réédité ça. Ils ont un peu trafiqué le texte.
Mais personne ne connaît les textes d'Anna Freud.
Hein. Et voilà, personne ne connaît les textes d'Anna Freud. Donc quand on le relit, on est vraiment sidéré, absolument sidéré. Quoi. Donc jusqu'au bout, avec un certain courage, d'une certaine façon, elle a maintenu sa position subjective, tout en occupant le devant de la scène comme... La plus classique. Voilà, donc il y a peut-être deux Anna Freud. Moi, je crois que c'est la même qui a essayé de tenir les deux bouts en même temps. Quoi.
Voilà, papa peut être un objet de désir, contrairement à ce qu'il dit lui-même.
Mais bien sûr, parce que contrairement à ce qu'il dit, il l'a dit aussi dans certaines lettres que... Bien sûr que papa peut être un objet de désir, bien sûr. Mais il faut voir que c'était un tel scandale, déjà, cette affaire-là, d'Oedipe. Hein. Donc Freud n'a pas trop...
Ils ont préféré ne pas en rajouter.
Oui, voilà. C'est exactement ça.
Isabelle Mangou en est à la redécouverte d'une Anna Freud un peu différente de celle qu'on connaît, conventionnelle, conformiste, grise, grâce aux travaux que vous avez vous-même initiés, donc une autre Anna Freud, celle qu'on essaie de découvrir d'ailleurs au cours de cette émission. Il faut dire que les textes de Anna Freud ne sont pas à la disposition du public français, que personne ne peut les lire, que seuls quelques textes ont été traduits, et encore de façon très étrange, ils sont occultés, voire même complètement refoulés. Donc, en fait, on connaît très mal Anna Freud en France aujourd'hui. Il faut aussi dire que quand même, néanmoins, il y a au cœur de la théorie de Anna Freud cette...
égo, l'égo psychologique qui est quand même extrêmement normatif. Et cette théorie normative du moi, de l'égo-psychologie, Lacan a fait une critique novatrice et radicale. Lacan qui était néanmoins lié par son roman familial analytique à Anna Freud, Isabelle Mangou.
En 54, Lacan, en plein dans sa critique d'Anna Freud, disait en même temps d'elle qu'elle était le fil à plomb de la psychanalyse et qu'il manquait le niveau d'eau qui permettait de bâtir la maison psychanalytique. Mais que cette verticalité d'Anna Freud était intéressante. Donc il disait avec pas mal d'ironie, et l'hypothèse c'est que le niveau d'eau, l'allonger là, eh bien c'est Lacan. Et que la psychanalyse actuelle fonctionne malgré tout avec ce fil à plomb et ce niveau d'eau ensemble et que ça continue. Donc il faut remonter à Fliess, dont le rôle est si important dans la création de la psychanalyse. Fliess a épousé Ida Bondy. Sa sœur, Mélanie, a épousé le médecin et ami de Freud, Oscar Rie. Ils ont eu plusieurs enfants, dont Marianne, qui est l'épouse d'Ernst Chris. Chris est le neveu par alliance de Fliess.
Voilà.
Alors, Marianne Chris était contrôlée par Anna. Elle était très amie aussi avec Anna. Freud appelait Marianne « ma fille ». Chris et Marianne ont appelé leur fille Anna. Et il faut signaler aussi que Marianne Chris a été l'analyste de Marilyn Monroe. Aussi d'ailleurs Anna Freud brièvement. Et Ernst Chris est un personnage très intéressant. C'est un historien d'art, conservateur du musée de Vienne, psychanalyste, analysé par Hélène Deutsch, contrôlé par Anna. Et il travaille avec Hartmann et Löwenstein, ils font une espèce de trio ensemble, lequel Löwenstein sera donc l'analyste de Lacan. Il y a un personnage dont nous n'avons pas parlé, c'est Marie Bonaparte.
La princesse.
Voilà. Elle était en analyse avec Freud. Elle a publié avec Anna la correspondance Freud-Fliess.
Une partie de la correspondance.
Une partie, oui. Et c'est grâce à Marie Bonaparte qu'on peut dire que la psychanalyse a été introduite en France.
Elle a traduit Freud.
Elle est, entre autres, elle a introduit le mouton freudien dans la bergerie en faisant venir Löwenstein.
On raconte aussi d'ailleurs que Löwenstein était l'amant de Marie Bonaparte.
Oui, assez tôt, quand il est arrivé de Berlin, elle l'appelait mon amoureux, elle en parlait comme cela. Le personnage de Marie Bonaparte est extraordinaire. Elle se fait opérer plusieurs fois pour rapprocher le clitoris du vagin, pensant ainsi pouvoir soigner sa fragilité. Chris, dont on se rappelle qu'il était l'ami de Löwenstein, d'Hartmann et de Marie Bonaparte, a eu sur son divan un jeune homme qui pensait que dès qu'il écrivait quelque chose, il ne pouvait rien publier parce qu'il croyait plagier. Et donc, après les séances, il allait manger dans un restaurant des cervelles fraîches.
L'homme aux cervelles fraîches.
Voilà. Or, Lacan a commenté cette fois ce cas de 54 à 67, de cette fois de manière différente.
C'est-à-dire que l'histoire n'était jamais tout à fait la même.
Hein. Oui. Et c'est ce qui fait son point commun avec Anna Freud, c'est que il manie aussi bien qu'elle la falsification et le point de trahison dans la langue. Et ça, c'est un point très important. Donc le cas de Chris a été commenté, soumis au contrôle d'Anna Freud.
Et, par Chris.
Oui. Et l'hypothèse, en tout cas d'Alouche, c'est que, enfin, argumentée, très argumentée, c'est qu'on peut dire que le cas, ce jeune homme sur le divan de Gris serait Lacan sur le divan de Loewenstein. Vraiment, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une verticalité toujours active d'Anna Freud dans la psychanalyse lacanienne.
Ah oui, elle est toujours présente.
Oui. Donc... Et notamment par cette manière de raconter et commenter un cas en le trahissant. C'est un point de création qui est une sorte de secret ouvert, de coming out détourné, extrêmement actif et extrêmement queer.
Est-ce qu'on pourrait dire que Lacan comme Anna Freud ou Anna Freud comme Lacan introduisait la fiction à l'intérieur de la psychanalyse hein, par ce biais?
C'est un point de trahison. C'est-à-dire qu'il s'agit de retourner la langue contre elle-même, de retourner l'histoire contre elle-même, de retourner les filiations contre elle-même. Et là, on retrouve d'ailleurs... la question de Fliss, parce que Fliss, c'est aussi ce qu'il faisait, c'est-à-dire il inventait des sortes de néofiliations non basées.
Comme quoi les origines béantes de la psychanalyse ne cessent de travailler l'histoire de la psychanalyse à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis.
Absolument. Alors le psychanalyste français Granoff, que tout le monde connaît, disait qu'Anna était une bouture dégénérée de la psychanalyse freudienne. Il disait peut-être une bouture dégénérée, pourquoi pas, de la psychanalyse freudienne. Lacan n'a pas dit non à ça. Il n'a pas dit non à ça en laissant ouvert, via cette falsification du cas de Gris, il a laissé ouvert le fait qu'on ne peut pas être indépendant de... d'Anna Freud, qu'elle a participé en tant que bouture dégénérée en dégradant le corpus de son père, d'une certaine manière, en retournant la psychanalyse contre elle-même. Elle a participé probablement à la création de l'objectita pour Lacan et le fait qu'ils disent que l'analyste est un semblant d'objectita. Et ce que Anna Freud faisait naturellement.
Anna est morte en octobre 1982 à 86 ans. Les derniers jours d'Anna ont été terribles. Elle était dans un fauteuil roulant. Le dernier jour, elle a demandé à ce qu'on la conduise à Mercefield Gardens. Là, dans le placard de la chambre, elle a pris le Loden qui était nettoyé tous les ans, du professeur Freud. Et lorsque les deux personnes qui s'occupent d'elle la retrouvent à Mercefield Gardens, Anna est enveloppée dans le grand manteau de laine de son père. On dit qu'elle est morte enveloppée dans ce manteau.
Une vie, une œuvre. Anna Freud, avec Mayette Viltard, Anne-Marie Vanov, Marie-Madeleine Lessana, Isabelle Mangou, José Attal. Merci au psychiatre Yves Thoré qui nous a procuré les textes expurgés de la correspondance Freud-Fliss, lue par Yves Fabrice. On les trouve dans le numéro consacré à l'érotisme de janvier 99 de la revue L'Évolution psychiatrique, et dans le numéro 38 de la nouvelle revue de psychanalyse présentée par François Gantret. Équipe de réalisation, Delphine Baudet, Pascal Baranzelli, Malika Mesgache, Christine Goémé.
Cette émission a été diffusée la première fois le 7 septembre 2003 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.